Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre Rock'n'Roll Justice, une histoire judiciaire du rock est un essai de Fabrice Epstein, avocat au barreau de Paris et chroniqueur pour Rock'n'Folk, publié à la manufacture de livres. L'ouvrage propose une lecture originale de l'histoire du rock en la plaçant sous le regard du droit et des tribunaux. Plutôt que de raconter seulement les carrières, les disques ou les mythes du genre, il examine les affaires judiciaires, les controverses morales, les conflits commerciaux et les tensions institutionnelles qui ont accompagné la musique rock depuis les années 1950. Le livre adopte ainsi une perspective à la fois culturelle, sociale et juridique. Il montre comment une musique fondée sur la transgression, la provocation et la liberté d'expression a souvent obligé la justice à se prononcer sur des questions de censure, d'obscénité, de propriété intellectuelle ou de comportement jugé excessif. C'est donc un ouvrage d'histoire du rock autant qu'une enquête sur la manière dont le droit réagit face à une forme artistique qui dérange, bouscule et révèle les limites d'une époque. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le rock comme force de désordre face aux institutions. Le point de départ du livre est l'idée que le rock ne se contente pas d'être un genre musical, mais qu'il agit comme une épreuve pour la société. Fabrice Epstein insiste sur sa dimension transgressive et subversive, qui met à l'épreuve les normes collectives et les institutions chargées de les faire respecter. Cette approche permet de lire l'histoire du rock non comme une simple succession de succès artistiques, mais comme une série de frictions avec l'ordre social. Les musiciens deviennent alors des acteurs qui testent les limites du permis, du toléré et du choquant. Le droit n'apparaît plus comme un cadre abstrait, mais comme une réponse concrète aux tensions provoquées par des attitudes, des spectacles ou des paroles perçues comme excessifs. En reliant ainsi culture populaire et justice, le livre montre que le rock a souvent servi de révélateur des peurs sociales et des mécanismes de contrôle. Cette perspective donne au genre une portée historique plus large que la seule histoire musicale. Deuxièmement, une anthologie d'affaires judiciaires célèbres et oubliées, l'originalité du livre tient aussi à son choix documentaire. Fabrice Epstein ne se limite pas aux épisodes les plus connus, même s'il évoque aussi des cas emblématiques. Il construit une anthologie judiciaire du rock à partir de petites affaires comme de grands scandales, en mêlant procédures visibles et décisions plus discrètes. Cette méthode élargit le champ habituel des récits sur le rock, souvent centré sur la célébrité, la scène ou la biographie. Ici, l'intérêt réside autant dans le tribunal que dans le concert, autant dans le dossier que dans la discographie. Le livre fait ainsi apparaître des conflits civils, commerciaux et pénaux qui racontent chacun une facette du milieu musical. Cette diversité d'affaires permet de comprendre que les tensions juridiques du rock ne se réduisent pas aux scandales spectaculaires. Elles touchent aussi à la gestion des carrières, aux rapports contractuels, aux droits d'exploitation ou aux conséquences pratiques de comportements jugés problématiques. Le résultat est un panorama plus complet et plus nuancé de l'univers rock. Troisièmement, obscénité, censure et morale publique, un des axes les plus forts du livre concerne les poursuites engagées au nom de la morale. Les affaires d'obscénité, de provocation ou de censure occupent une place importante, car elles montrent comment les tribunaux ont tenté de fixer des frontières morales à une musique réputée scandaleuse. Le cas de Jim Morrison et des Doors, souvent cité dans les sources autour de l'ouvrage, illustre ce type de confrontation entre performance artistique et ordre public. Le livre rappelle aussi que certaines interdictions ou restrictions ne visaient pas seulement les paroles, mais l'image du rock comme menace culturelle. À travers cet épisode, Fabrice Epstein met en lumière une question centrale, jusqu'où la liberté artistique peut-elle aller lorsqu'elle heurte les sensibilités d'une société donnée? L'intérêt de cette lecture est de montrer que les procès ne portent pas seulement sur des actes individuels, mais sur des visions concurrentes de la décence, de la jeunesse et de la liberté. Le rock devient alors un laboratoire des débats sur la censure. Quatrièmement, propriété intellectuelle, contrats et conflits économiques du milieu rock, le livre ne s'arrête pas aux affaires pénales ou aux scandales médiatiques. Il accorde aussi une attention importante aux dimensions civiles et commerciales du droit, souvent moins visibles mais essentielles pour comprendre l'industrie musicale. Les questions de propriété intellectuelle, de succession et de gestion des droits illustrent la manière dont le rock a dû s'inscrire dans des cadres juridiques complexes. Derrière l'image rebelle du musicien se trouvent des contrats, des héritages, des litiges d'exploitation et des rapports de force économique. En rappelant que la musique fait aussi travailler le droit des affaires, Fabrice Epstein élargit la réflexion au fonctionnement concret du monde musical. Cette approche est précieuse, car elle montre que les conflits du rock ne naissent pas seulement de la provocation artistique, mais aussi de la valeur financière des œuvres, des noms et des catalogues. Le livre suggère ainsi que l'histoire du rock est indissociable de la manière dont ses créations sont possédées, transmises et monétisées. Le droit devient ici un outil de lecture de l'industrie culturelle, En dernier lieu, une lecture sociale du rock à travers les procès. Au-delà des cas particuliers, l'ouvrage propose une lecture sociale de l'histoire du rock. Chaque affaire judiciaire devient un indice des transformations d'une époque, évolution des mœurs, rapport à la jeunesse, place de la contestation, gestion des peurs collectives. Fabrice Epstein montre que les procès autour du rock racontent autant la société qui juge que les musiciens jugés. C'est ce déplacement du regard qui donne au livre sa vraie portée intellectuelle. Le lecteur ne découvre pas seulement des épisodes insolites, mais une manière de comprendre comment la culture populaire agit sur les normes communes. Les décisions de justice deviennent des documents historiques à part entière, capables d'éclairer une période mieux que de longs discours abstraits. Cette méthode intéressera autant les lecteurs de musique que ceux qui s'intéressent à l'histoire sociale, aux sciences juridiques ou à la sociologie des institutions. Le rock y apparaît comme un terrain d'observation privilégié des tensions entre liberté, contrôle, commerce et morale publique. En conclusion, Rock'n'Roll Justice s'adresse d'abord aux lecteurs qui aiment le rock, mais il intéressera tout autant les juristes, les historiens de la culture, les sociologues et plus largement ceux qui cherchent à comprendre comment une forme artistique peut déplacer les frontières du droit. Son principal apport est de ne pas traiter le rock comme un simple objet de nostalgie musicale. Il l'analyse comme un phénomène social qui a généré des litiges, des procès et des arbitrages révélateurs d'une époque. Le livre offre ainsi un double bénéfice. Sur le plan intellectuel, il renouvelle la lecture de l'histoire du rock en la reliant à la censure, à la morale, aux droits patrimoniaux et aux conflits commerciaux. Sur le plan documentaire, il rassemble des affaires connues et d'autres plus discrètes dans une perspective cohérente et très lisible. Ce qui le distingue de beaucoup d'ouvrages du même genre, c'est précisément ce croisement entre érudition juridique et culture musicale. Au lieu de raconter seulement des légendes, il explique comment elles ont été confrontées à la justice. Si vous souhaitez soutenir Fabrice Epstein, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!